Vous écoutez
RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h33 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Laurent Nunez.
Bonjour.
Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes le préfet de police de Paris. C'est vous qui êtes en charge de la sécurité pour Paris et pour la région parisienne. On va revenir évidemment sur les émeutes qui ont eu lieu il y a deux semaines, mais aussi peut-être sur celles que vous redoutez à nouveau à l'occasion des festivités du 14 juillet. Il y a d'ailleurs un certain nombre de communes qui ont préféré renoncer à ces festivités, craignant pour la question de la sécurité. Vous avez annoncé un dispositif exceptionnel, vous allez le développer. Mais d'abord sur ces craintes, elles sont de quel ordre ?
D'abord, c'est la fête nationale. Hein. Donc, les festivités, dans leur grande majorité, sont maintenues. Il y a très peu de communes qui ont renoncé à organiser ces festivités. Et comme le ministre de l'Intérieur l'a rappelé hier, il n'y a pas d'instruction du gouvernement.
Ce sont des décisions individuelles
en nombre extrêmement limité. Ça veut dire que la plupart des festivités, les feux d'artifice qui étaient prévus à Paris, évidemment, et dans l'agglomération, se dérouleront normalement et seront sécurisés. La seule réserve, évidemment, c'est que, compte tenu des événements, les festivités organisées par les communes sont sécurisées en général par les polices municipales. Pour ce à quoi nous attendons, vous savez, c'est traditionnel, hein, pour chaque 14 juillet, il y a un peu plus de violences urbaines que d'habitude.
C'est traditionnel, ça donc, fait partie des traditions.
Malheureusement, Pauline de Malherbe, ça fait partie des traditions. Il y a toujours des violences urbaines, toujours contenues, toujours limitées. Et évidemment, pour éviter toute résurgence de ce que nous avons connu il y a quelques jours, nous allons avoir un gros dispositif qui va consister à quadriller le terrain avec de nombreux effectifs mobilisés. On sera sur 10 000 fonctionnaires de police, militaires de gendarmerie pour Paris et l'agglomération parisienne et qui, évidemment, interviendront dès qu'il y aura des exactions commises pour procéder à des interpellations.
C'est traditionnel, mais là, c'est exceptionnel. Ce qui s'est passé il y a quelques jours, mais ce que vous craignez quand même, vous craignez que ce ne soit pas juste dans les proportions du traditionnel, pour reprendre votre
On ne craint rien du tout. Vous avez constaté qu'il y a eu un retour au calme, on ne craint rien du tout. On est simplement prudent, c'est de la prudence, et on est déterminé, évidemment, à intervenir à la moindre exaction. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le ministre m'a demandé, à Paris et dans la région parisienne, de veiller à ce que le terrain soit quadrillé d'effectif, comme nous l'avons fait.
C'est quoi la différence avec ce qu'on fait habituellement?
Ça veut dire qu'on déploie beaucoup plus d'effectifs que d'habitude, qui sont déployés sur le terrain, et on déploie des moyens accrus. C'est-à-dire que, comme vous le savez, nous avons déployé, pendant les jours de violences urbaines intenses, que certains ont même qualifié d'émeutes urbaines, nous avons déployé des moyens lourds, notamment la BRI, le RAID, le GIGN qui étaient déployés, des hélicoptères, la mobilisation de drones. Ce sera à nouveau le cas, à la fois pour la nuit du 13 au 14 juillet, pour la nuit du 14 au 15 juillet.
Et il y en aura aussi dans Paris, mais également dans la Petite Couronne. Et ça, c'était inédit, si j'ai bien compris. Hein. D'avoir autant de policiers mobilisés, de policiers et de gendarmes.
Ça a été le cas pendant les émeutes urbaines, c'est le cas généralement pendant les phases festives, hein, qui sont, je le disais tout à l'heure, le 14 juillet. Vous avez aussi la nuit de la Saint-Sylvestre, traditionnellement. Et nous déployons des effectifs sur l'ensemble de mon périmètre de compétences, Paris et la Petite Couronne. Non, il y a toujours des effectifs déployés en Petite Couronne pour ces soirées de festivités.
Vous regrettez que certaines villes aient préféré renoncer ? Vous regrettez que...
Non, parce que vous dites,
c'est des décisions individuelles. Enfin, il y a quand même Nanterre, Bagnolet, Rosny-sous-Bois, Aulnay-sous-Bois, la liste est longue. Et quelques grandes villes également en région qui ont préféré renoncer.
Non, je ne le regrette pas, c'est le choix. Vous savez, il y a le principe de libre administration des collectivités locales. On doit le respecter. Ce que je constate, vous dites la liste est longue, mais elle ne concerne que quelques communes sur l'ensemble de mon périmètre. Paris, évidemment, maintient ses activités, ses festivités. Et dans les départements de Petite Couronne, j'ai fait le point hier avec les préfets compétents des trois départements de Petite Couronne, il y a assez peu de communes qui renoncent. Moi, j'ai pas d'avis sur le sujet, simplement pour celles qui, beaucoup le maintiennent quand même ces festivités. C'est ce que je constate, parce que c'est normal, parce que c'est un moment de fête nationale aussi, il faut pas l'oublier, c'est d'abord ça.
Mais Laurent Nunez, j'ai remarqué qu'à deux reprises, vous avez utilisé le mot émeute, mais une fois, en le prenant avec une certaine distance, en disant certains l'ont qualifié d'émeute urbaine, et puis à un autre moment, vous avez vous-même spontanément parlé d'émeute. Pourquoi vous avez cette petite réserve?
Non, j'ai pas de réserve. On a eu un phénomène de violence urbaine très intense pendant quatre nuits surtout, à partir du 27 juin jusqu'à tout début juillet, on peut évidemment le qualifier d'émeute urbaine. Il y a eu des incidents multiples dans de nombreux points du territoire, mais qui, grâce au déploiement qu'on a pu mettre en œuvre, et y compris d'ailleurs sur Paris et la Petite Couronne, ont été quand même très rapidement contenus.
Grâce à qui ça s'est arrêté?
Ça s'est arrêté grâce à l'intervention des forces de l'ordre, grâce au déploiement que nous avons, aux moyens que nous avons mis en œuvre, qui étaient totalement inédits. On n'a jamais vu la BRI, le RAID, le GIGN déployés dans les quartiers. C'est ce qu'a souhaité le ministre de l'Intérieur. Donc, il nous a demandé de déployer ce type d'effectifs. Il nous a demandé d'interpeller les gens. Et puis, surtout, je crois qu'il y a un message fort qui a été passé depuis ces quatre nuits qui ont été les plus intenses. Le message fort, c'est que derrière, les services de police judiciaire ont travaillé. Le ministre a demandé à ce qu'il y ait une mobilisation sous l'autorité des parquets, évidemment, mais une mobilisation important des services de police judiciaire. Moi, c'est ce que j'ai fait à Paris en mobilisant les services de ma direction de la sécurité publique, mais aussi de la police judiciaire du 36 quai des Orfèvres qui a travaillé à confondre des auteurs qui ont pu commettre des exactions
avec des comparutions immédiates.
Et ça veut dire qu'au-delà des interpellations auxquelles on a procédé en flagrance, nombreuses, hein, près de 1400 sur Paris et la Petite Couronne, au-delà, on a déjà interpellé plus de 130 personnes pour des faits qui ont été commis grâce à des investigations judiciaires. Donc, on les interpelle a posteriori. Et ça, c'est un signal fort de fermeté qui est donné à ceux qui voudraient, qui seraient tentés de commettre de nouvelles exactions.
Si je vous pose la question de grâce à qui est-ce qu'il y a eu ce retour au calme, c'est parce que vous vous dites c'est évident, c'est grâce à nous, enfin grâce à la police, grâce aux forces de l'ordre. Mais d'autres ne sont pas tout à fait de cet avis. Les spécialistes du grand banditisme, comme Frédéric Ploquin, dit que sans doute les dealers ont aussi un rôle parce qu'ils n'avaient aucun intérêt à ce que ce ne soit pas le calme, parce qu'ils ont besoin du calme pour faire leur trafic. Et quelqu'un comme Éric Zemmour estime même que c'est non seulement grâce aux dealers, mais aussi grâce aux imams qui auraient demandé dans les quartiers à se calmer. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
D'abord, enfin, je pense que c'est faux. Enfin, c'est vraiment la mobilisation des forces de sécurité intérieure qui a permis le retour au calme. Voilà, parce qu'on a eu un public de jeunes. Beaucoup de jeunes, hein, qui ont été mobilisés. Parce que l'âge moyen, c'était 17 ans. Il y avait un tiers de mineurs parmi les interpellés, c'est-à-dire ceux dont nous avons eu à connaître.
Mais ils font partie de ceux qui travaillent dans les trafics, non?
Je ne pense pas que ce soit les imams. Je pense pas que ce soit les dealers. Ils tentent sans doute de faire la loi dans les quartiers. Ça, on le sait. Les dealers tentent de faire la loi dans les quartiers, mais nous les enrayons, nous les entravons, nous démantelons des réseaux, nous sommes très présents. Je ne pense pas qu'ils aient autant d'impact qu'on veut le dire. Je reste à ma modeste place de préfet, de représentant de l'État. Je pense que ceux qui portent ce genre de discours, c'est un discours politique, donc je ne commenterai pas au-delà. Ce que je peux vous dire, c'est que nous luttons contre les trafics et nous mettons à mal beaucoup de trafic. Et Gérald Darmanin insiste beaucoup sur ce sujet. Et ce qu'il nous demande, c'est pas de disperser les trafics, c'est de les démanteler en profondeur. Et c'est ce que nous faisons à Paris et en région parisienne. C'est-à-dire qu'on démantèle les réseaux pour qu'ils arrêtent de pourrir la vie des gens là où ils sont implantés.
Laurent Nunez, vous dites que le reste, c'est de la politique. Alors, il y a la politique, oui. Et vous êtes préfet de police, donc c'est pas votre rôle. Mais il y a aussi la question des faits. Et là, pour le coup, c'est votre rôle. Il y a eu ce petit jeu qui devient un jeu assez malsain, il faut le dire, autour de la question des prénoms. Mais ce jeu, il a été lancé, j'allais dire, par Gérald Darmanin lui-même, qui, alors qu'il s'adressait à la représentation nationale, a précisé qu'il y avait eu beaucoup de Kevin et de Mathéo, c'est son expression, parmi les émeutiers. Sous-entendu, ce ne serait pas des enfants issus de l'immigration. À cela, évidemment, Éric Zemmour, il s'est engouffré dans la brèche, lui-même avait souvent joué à ce petit jeu assez pervers des prénoms. Moi, je suis observatrice de tout ça, et je regarde les balles et je trouve que ça prend une tournure assez nauséabonde. J'aimerais justement qu'on puisse à chacun dire ce qu'il en est. Est-ce que quand Gérald Darmanin dit il y a des Mathéo et des Kevin, et quand Éric Zemmour répond oui mais enfin la majorité c'était quand même sans doute des Mohamed, même si vous avez trouvé un Kevin ou un Mathéo, quels sont les faits, Laurent Nunez?
Les faits, c'est qu'on interpelle des délinquants d'abord. Vous savez, moi je dirige les forces de police et de gendarmerie, nous on s'intéresse aux délinquants. Donc il y a aucune approche qui serait d'ailleurs discriminatoire, interdite par la loi. Donc on s'intéresse à des délinquants. On voit des gens qui cassent des vitrines, qui brûlent des bâtiments publics, qui brûlent les voitures. On intervient, on les interpelle. Ensuite, il y a toujours ce débat, oui, c'est l'immigration. On a constaté, le ministre, c'est ce qu'a dit le ministre. Le ministre a rappelé qu'il y avait 10% d'étrangers parmi les interpellés, étrangers. Le débat s'est ensuite déplacé, je le constate, sur le fait qu'on est remonté aux origines. C'est pour ça que le ministre a communiqué un certain nombre de prénoms pour dire non, attention, il n'y a pas que des gens d'origine étrangère. Moi, écoutez, je ne veux pas rentrer dans ce débat. Moi,
oui, mais le problème, c'est justement, pour ne pas rentrer dans ce débat, je vous demande pardon, Laurent Nunez, mais la seule manière de sortir de ce débat, c'est de donner des faits. C'est la seule chose qui permettra justement qu'il y ait une forme de juge de paix dans ce qui a été installé à distance Gérald Darmanin et un Éric Zemmour.
J'ai pas à être un juge de paix. Je peux vous dire qu'il y a une grande diversité dans les personnes qui interviennent, mais diversité au sens premier du terme. C'est-à-dire qu'il y a des gens de toutes les origines. Il faut arrêter de stigmatiser une catégorie de population. Nous sommes les forces de sécurité intérieure. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les délinquants. D'ailleurs, c'est vrai aussi pour les contrôles d'identité. C'est vrai pour plein de choses. On ne fait pas de contrôle discriminatoire. On contrôle des délinquants.
Mais qu'est-ce que vous répondez à quelqu'un comme l'ancien patron de la DGSE qui dit le problème, ces émeutes, nous n'y serions pas arrivés s'il n'y avait pas eu un problème d'immigration. Vous avez vous-même dirigé la DGSI.
Je pense qu'on peut pas résumer tout ça à des problèmes d'immigration, de sécurité. On est confronté dans notre pays à une crise d'autorité. On peut pas le nier. On peut pas ramener tous ces sujets à des problèmes d'explication sécuritaire, voire migratoire. Et on a un problème de crise d'autorité qui ne concerne pas que la police nationale d'ailleurs. Et donc voilà, pour moi, le sujet il est là. Je constate que de plus en plus de gens ne respectent pas ou bafouent l'autorité, quelle qu'elle soit, et pas seulement celle de la police et de la gendarmerie. Celle-ci, elle est plus visible, évidemment, puisque nous sommes au contact direct. Mais vous savez, les enseignants ont énormément de difficultés. Il y a plein de domaines. Certaines associations sont beaucoup moins implantées auprès de certains jeunes qu'elles ne l'étaient il y a encore 20 ou 25 ans. Il suffit de discuter avec les associations de quartier pour s'en rendre compte. Donc on a un problème de crise d'autorité, de respect de l'autorité. C'est ça qu'il nous faut résoudre.
Laurent Nunez, justement, dans cette question aussi de l'autorité, il y a des critiques qui sont énoncées à l'endroit de la question du contrôle au faciès. Claire Hédon, qui est la défenseure des droits, elle estime qu'il y a des contrôles au faciès, c'est même son expression. Elle rappelle que cette pratique, elle est interdite depuis 2016. Est-ce que ces contrôles discriminatoires existent et qu'est-ce que vous ferez pour les éviter ?
Alors d'abord, oui, vous citez Claire Hédon, effectivement, puisqu'elle a donné une interview, je crois, hier dans Le Parisien, où elle évoque, d'abord, elle fait un lien très direct à la question qui lui est posée sur la mort du jeune Naël. Elle évoque en réponse la question des contrôles d'identité. Bon, ouais. J'ai beaucoup de respect pour la défenseure des droits. J'étais un peu choqué par cette réponse. Enfin, la mort du jeune Naël est intervenue non pas dans le cadre d'un contrôle d'identité, mais dans le cadre d'un contrôle routier, que je demande à mes effectifs de réaliser, notamment lorsqu'il y a des infractions routières qui sont commises pour éviter des rodéos.
Ce qui était en l'occurrence le cas.
Donc j'étais un petit peu choqué de ce raccourci. Concernant les contrôles d'identité, vous savez, ils sont encadrés par la loi. On les réalise dans le cadre de réquisition du procureur de la République ou lorsque les policiers sont confrontés à des individus dont ils pensent qu'ils vont commettre des infractions, qu'ils ont commis des infractions. C'est extrêmement encadré. Je suis un petit peu choqué de lire qu'il y a des millions de contrôles d'identité discriminatoires. On parle de victimes de ces millions de contrôles d'identité.
Et je précise pour ceux qui nous écoutent à la radio qu'en donnant ces deux expressions, vous les faites comme entre guillemets.
Je les cite. C'est la défenseure des droits qui le dit. Je représente les policiers et les gendarmes parfois qui agissent sous mon autorité sur la plaque parisienne. Je trouve ça un peu choquant. C'est quand même pas tout à fait le cas. Faut savoir que le contrôle d'identité, c'est l'action de police de base qui souvent d'ailleurs permet de mener des investigations et de confondre des auteurs d'infractions, des délinquants. Donc il ne faut surtout pas s'en priver.
Elle parle de vérification. Claire Hédon, on va reprendre ses mots très précisément. Elle parle de vérification d'identité basée sur l'apparence physique, des vérifications d'identité discriminatoires. Vous contestez ces faits.
Je les conteste, je les réfute, mais totalement. Et d'ailleurs, nous faisons des contrôles dans le cadre d'opérations de lutte contre la délinquance. Nous cherchons des délinquants et donc ces contrôles sont effectués en vue de détecter des comportements délictueux. D'ailleurs, la défenseure des droits me saisit régulièrement, comme elle saisit d'ailleurs le DGPN, le directeur général de la gendarmerie, quand il y a des suspicions de contrôle discriminatoire. Nous sommes saisis et moi je demande des rapports à chacun de mes policiers qui sont supposés avoir.
Mais est-ce qu'ils ne vont pas faire plus? Elle demande à ce que ces contrôles soient tracés, je cite.
Alors la traçabilité, ça a été en débat, ça relève de la sphère politique, c'est pas de mon domaine. Simplement, ce que je veux dire, c'est que la traçabilité, c'est quand même compliqué à organiser. Ça a été évoqué en 2012, vous vous en souvenez. Voilà, moi, on n'est pas dans mon domaine, là, on est plus dans le domaine de la réforme politique. Attention à ne pas complexifier l'action des forces de l'ordre. Encore une fois, je le redis, le contrôle d'identité, c'est une action de base dans la police nationale et dans la gendarmerie nationale qui permet de détecter bien des auteurs d'infractions. Il y a plein d'actions, plein d'arrestations de délinquants qui commencent par des contrôles d'identité. J'attire l'attention aussi sur le fait qu'en matière de lutte antiterroriste, le contrôle d'identité, c'est quelque chose de fondamental.
Donc vous ne voulez pas mettre fin à ce contrôle d'identité et ne voulez pas complexifier encore l'action de la police. Quand vous entendez Sophie Binet, la nouvelle patronne de la CGT, qui dit « il y a un racisme systémique dans la police », qu'est-ce que vous répondez ?
Écoutez, sur ce sujet, je suis aussi également choqué. J'ai laissé à penser qu'il y aurait finalement chez les policiers une forme de racisme structurel. C'est absolument insupportable. Tout ça repose sur quelques cas qui ont été systématiquement sanctionnés. administrativement, souvent en même temps judiciairement. Et je trouve que c'est faire un très mauvais procès aux policiers, aux gendarmes. Il n'y a pas de racisme dans la police. La police, elle est, c'est une police qui est diverse, déjà, d'une part. La police, c'est la diversité. Il y a beaucoup de jeunes gens, de jeunes femmes qui sont aussi issus de l'immigration dans la police nationale. Donc,
Mais il y a des policiers racistes.
Il y a des policiers qui ont pu avoir des comportements, des gestes déplacés en nombre limité et qui ont été sanctionnés. De là à dire que structurellement la police est raciste, je pense que c'est franchement c'est inacceptable pour moi. Je ne peux pas vous comprendre que ça m'est complètement insupportable d'entendre ça. Il y a une telle déontologie dans la police nationale. Vous savez, on ne pardonne pas grand chose. Donc quand il y a des dérapages, il y a tout de suite des enquêtes, il y a des sanctions. Donc voilà, je crois qu'il faut, quand même raison garder. Et puis surtout, ça renvoie ce genre de phrase finalement légitime. Le ressentiment et la violence qu'il peut y avoir vis-à-vis des forces de l'ordre.
C'est presque une incitation au rejet des forces de l'ordre.
En tout cas, c'est une forme de rejet des forces de l'ordre. Oui, la police, il faut pas oublier que la police, elle est là pour protéger les gens. C'est d'abord son métier premier, c'est sa mission première, et c'est leur grande fierté de
le faire. Vous dites qu'il y a une déontologie, mais il y a peut-être un problème de recrutement, il y a peut-être un problème de formation. Quand Gérald Darmanin lui-même dit cette phrase, je la cite, ce que nous recrutons, c'est souvent des enfants, pour reprendre votre mot, dit-il, hein, c'est pas le mot qu'il utilise, mais il le reprend à son compte. Il dit, ce sont souvent des enfants de 18, 19, 20 ans, qui n'ont pas fait de grandes études, qui choisissent le service de la nation par la gendarmerie. Je ne suis pas à la tête du ministère de la Justice où les gens passent des concours à bac plus 4, bac plus 5. C'est méprisant quand même, non ?
Non, c'est pas méprisant du tout. Non, c'est pas méprisant du tout.
Ça a été pris comme tel par un certain nombre de syndicats.
Non, mais c'est la réalité.
Qui n'osent pas forcément le dire tout, mais qui n'ont pas forcément très bien pris cette phrase.
C'est la réalité de la sociologie de la police nationale. C'est la police nationale, c'est aussi une grande machine à promotion sociale aussi. Oui, il y a des gens qui rentrent avec des niveaux qui peuvent être différents que ceux dans d'autres administrations. Et le ministre l'a dit, et qu'est-ce que ça change ? Le ministre l'a rappelé, il y a toute une formation.
Bah, il y a presque un côté,
qui est tout à fait remarquable, que le ministre a étendu d'ailleurs, hein, qui est passé de 8 mois à 12 mois, avec des formations continues en cours de carrière. Donc voilà, donc je vois pas où est le problème. Franchement, je vois pas le problème.
Vous savez, est-ce qu'il faut que les formations soient allongées, approfondies ?
Oui, bien sûr, non, mais le ministre, il travaille, il nous demande de renforcer ces formations, notamment les formations.
Vous y êtes favorable, vous estimez que ces formations doivent quand même. Aujourd'hui, elles sont insuffisantes.
Le ministre a souhaité que nous en fassions plus. Je ne dirais pas qu'elles sont insuffisantes. Le ministre veut que nous en fassions plus. C'est ce que nous faisons. Vous savez, 45 minutes, 46 minutes, je crois, d'un propos du ministre de l'Intérieur sorti de complètement de son concept. C'est par rapport à ce que vous me disiez qu'avait dit la secrétaire générale de la CGT sur le racisme dans la police. Je crois, voilà, il y a des phrases qui font beaucoup plus mal, qui nous font beaucoup plus mal aux organisations syndicales de police que ce que vous rapportez de ce qu'a dit le ministre et encore une fois qui a complètement été déformé, détourné. Vous savez, ce qu'a dit Madame Binet, c'est très grave parce qu'elle essaie. Ce qu'il y a derrière tout ça, c'est qu'on essaie de laisser à penser aux jeunes, notamment des quartiers, que finalement ce qui est arrivé au jeune Naël, c'est parce qu'il était d'origine étrangère. C'est ça ce qu'on essaie de dire. D'ailleurs, c'est ça ce qui est sous-jacent. C'est ça ce que disent un certain nombre de responsables politiques. Et ça, c'est très grave parce que je considère que ça contribue certainement pas à l'apaisement.
Laurent Nunez, parmi les décisions que vous avez prises pour éviter tout débordement ce week-end, il y a cette interdiction des manifestations, je cite, liées aux émeutes. Ça veut dire quoi ?
C'est très clair. C'est-à-dire que on a eu un épisode de tension, de violence urbaine très fort. Et donc, nous n'avons pas souhaité qu'il y ait des manifestations qui puissent être organisées dans la foulée. En tout cas,
dans des périodes trop rapprochées, par exemple,
dans des périodes trop rapprochées, nous n'avons pas souhaité qu'il y ait ce type de manifestations parce qu'elles sont porteuses de risques de troubles à l'ordre public. Donc c'est pour ça que
elles
des décisions.
Elles souhaitent le trouble à l'ordre public.
Mais bien sûr, enfin non.
Elles sont porteuses de ça. Elles sont prétextes à ça ou est-ce qu'elles ont la volonté, manifestation comme celle de la famille Traoré,
il y a des risques.
Avait souhaité
Dans le contexte, écoutez, cette manifestation, elle devait avoir lieu dans le Val d'Oise, Persan, Beaumont, dans le contexte où les violences urbaines assez sérieuses avaient eu lieu, où il y a eu des destructions de bâtiments publics sur ces communes. Dans ce contexte, cette manifestation était porteuse de troubles à l'ordre public. C'est le préfet qui a pris un arrêté, c'est le tribunal administratif qui l'a confirmé, c'est pas moi qui le dis. Ils ont ensuite voulu faire cette manifestation à Paris dès le lendemain, sans préavis d'ailleurs. J'ai été informé, moi, le soir. Donc j'ai évidemment fait savoir que je l'interdisais pour les mêmes motifs.
Il y en a une autre qui est prévue samedi, vous l'interdirez ?
Bien sûr, mais bien sûr, j'ai lancé hier une lettre, la procédure, ce qu'on appelle la procédure contradictoire. J'ai écrit aux personnes qui veulent organiser cette manifestation pour leur demander d'y renoncer. Et si elles ne le font pas, je prendrai un arrêté d'interdiction. Mais vous savez, hier soir, j'ai interdit deux manifestations de soutien aux policiers, aux, 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 policiers auteurs dans l'affaire Naël.
Ah donc il y a des manifestations de l'autre côté également.
Mais bien sûr, enfin c'est pas.
Et que vous interdisez tout autant.
Il n'y a pas deux poids deux mesures pour les mêmes motifs. Pour nous ne souhaitons pas qu'il y ait dans un temps rapproché de la période que nous avons vécue des manifestations qui puissent avoir lieu parce qu'elles sont porteuses de risques de troubles à l'ordre public.
Qui avait organisé ces manifestations ?
C'était des mouvements, des collectifs de policiers. Les femmes de policiers en colère, je crois, et puis un autre collectif de policiers qui ne sont pas des organisations syndicales, qui avaient organisé, qui avaient déclaré des manifestations. Je leur ai écrit, et d'ailleurs, je dois dire que d'elles-mêmes, elles ont au final renoncé à l'organisation de ces manifestations. Ce qui
vous n'avez donc pas eu à officiellement les interdire, vous les avez découragées.
Pour l'une d'entre elles, oui, mais la personne a fait savoir, l'organisateur fait savoir qu'il exécuterait mon arrêté. En tout cas, samedi, je vous confirme, que le ministre l'a d'ailleurs rappelé hier, que j'interdirai évidemment la manifestation du 15 juillet, qui ira de République, le samedi 15 juillet, qui ira de République à Nation sur le thème du racisme dans la police, des violences policières.
Qui aurait été de République à Nation.
De toute façon, cette manifestation n'aura pas lieu, pas plus qu'en réalité.
Ouais, enfin, vous dites ça, puis la dernière fois, elle a finalement de manière sauvage, mais elle a quand même eu.
On l'a dispersée, en prenant d'ailleurs beaucoup de gants, vous l'avez noté.
Ouais, j'avais beaucoup des effets. Il y a ces images, hein, évidemment, oui. du frère d'Adama
Traoré. On peut revenir là-dessus.
Allez-y.
Mais on peut revenir. Mais en tout cas, la manifestation elle-même, elle a été empêchée, puisque nous avons refoulé les personnes qui se sont présentées en violation de la loi sur la place de la République, de manière, vous avez noté, extrêmement calme. Moi, j'avais des effectifs qui n'étaient. Pour ceux qui sont intervenus sur la manif, pas casqués, etc.
Bon. Mais dites-nous d'un mot, le frère d'Adama Traoré.
Je vais vous le dire, mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Ouais. Et il n'y a pas un monde où ça se serait passé différemment. Vous avez Monsieur Traoré qui, à un moment où les forces de l'ordre ont voulu pénétrer sur la place de la. Où les manifestants ont voulu investir la place de la République, ils ont, avec quelques-uns, forcé le barrage des policiers. Et à ce moment-là, il y a des violences qui ont été commises. Des violences qui ont été commises, qui sont d'ailleurs documentées. Il y a une enquête judiciaire et la réalité des faits sera établie. En tout cas, moi, ces vidéos, je les ai vues, j'étais à la salle de commandement. Donc ce monsieur, effectivement, a forcé à plusieurs reprises le barrage, a insulté les fonctionnaires de police, violenté les fonctionnaires de police. Évidemment, dans ces cas-là, on n'interpelle pas tout de suite. On ne va pas créer un trouble à l'ordre public plus grand que celui qu'on veut contenir. On interpelle après la manifestation, à la dispersion. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, vous avez eu ces images, effectivement, de la BRAVEM qui a interpellé M. Traoré de manière vigoureuse. Mais c'est toujours comme ça quand un individu refuse d'être interpellé. Et je tiens à préciser que j'ai 7 plaintes de fonctionnaires de police contre M. Traoré pour des violences et que j'ai un fonctionnaire qui a été blessé à cette occasion également.
Et l'IGPN a d'ailleurs été saisi. Laurent Nunienne, préfet de police de Paris, merci d'avoir répondu à mes questions.